des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Bon, Vincent, notre prochaine invitée est pas encore arrivée. On va profiter pour se parler du gouvernement fédéral qui annonce des sommes supplémentaires pour l'électrification, cette fois-ci des autobus.
Oui, et il y en aura des autobus électriques au Canada si on se fie au programme du gouvernement fédéral.
Autobus scolaires, de ville, tout?
Ben oui, sur autobus zéro émission. On s'entend qu'il doit y avoir beaucoup d'autobus de ville, là, carrément, parce qu'on on en veut 5000 autobus zéro émission d'ici 2026, donc on n'est pas dans très longtemps, là, on est dans les prochaines années, et des contrats qui pourraient aller en grande partie à des entreprises de chez nous, parce qu'on a Novabus, évidemment, qu'on connaît bien, également Lion Electric ou Lion Electric à Saint-Jérôme, où on devrait avoir des parts de ces commandes-là.
Lion Electric sont surtout dans les scolaires, je pense. Et Novabus... J'ai même vu une manchette, plus dans quel journal québécois, et je pense qu'ils viennent d'en vendre en Californie, les autobus scolaire, un paquet.
Et tu sais, on en a beaucoup parlé de la frénésie entourant l'électrique. Alors, veux pas, ces compagnies-là ont des commandes. Là. Et l'enveloppe réservée, 2,75 milliards de dollars, qui n'est pas de l'argent de nouveaux investissements, là, c'était inclus dans des annonces qu'on avait déjà fait du 15 milliards sur 8 ans dans les transports en commun. Ça avait été annoncé en février dernier. Donc aujourd'hui, le premier ministre, également François-Philippe Champagne, qui avait des rencontres téléphoniques et vidéo avec ces compagnies-là pour faire ces annonce qui vise à faire marcher davantage et activer le milieu électrique à la grandeur du pays. Question de s'équiper aussi parce que on convient du côté du gouvernement fédéral que c'est nécessaire d'avoir de nouveaux produits plus écologiques.
Mais ça, c'est une nouvelle qui revient dans l'actualité à intervalles réguliers, le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on apprend que les Canadiens gaspillent annuellement 3 millions de tonnes de nourriture. Mais à l'échelle du monde, je sais pas si t'as vu l'image, j'ai dit,
oui.
1 milliard de tonnes, on pourrait mettre des camions de 40 tonnes de bouffe, bout à bout, puis faire 7 fois le tour de la Terre.
Ouais.
7 fois le tour de la Terre de camions de plusieurs tonnes de nourriture, ça c'est ce qu'on gaspille annuellement.
Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui mangent pas, là.
Oui, ouais, ouais. Effectivement. Sylvain Charlebois, économiste, titulaire de la Faculté en management et en agriculture de l'Université Dalhousie, est avec nous. Professeur Charlebois, bonjour.
Bonjour.
On s'en est déjà parlé du gaspillage de nourriture. On se comprend que c'est beaucoup, mais est-ce que la tendance générale, si on la regardait sur une décennie, est-ce que c'est à la hausse ou à la baisse?
Ben, en fait, quand on regarde le rapport des Nations Unies, le temps d'évaluation, la période d'évaluation termine en 2019. Donc, ça n'inclut pas 2020.
Okay.
C'est une année, disons, particulière, là. Mais avant 2020, nous étions des nomades. On voyageait beaucoup. On dépensait beaucoup d'argent au restaurant. En fait, 35% de notre budget était consacré à la restauration et il y a beaucoup de gaspillage là. C'est sûr que c'est un problème. Moi, je considère toujours que le gaspillage alimentaire, c'est la facture qu'on reçoit jamais, mais qu'on doit payer. Parce que dans le fond, ça coûte de l'argent à tout le monde, le gaspillage. En plus que ça devient un poids lourd pour l'environnement, ouais. Parce qu'il faut consacrer des ressources pour ça, là.
Pour ce sujet que j'ai regardé, sur lequel j'ai lu beaucoup au fil des années, au départ, on pense surtout au gaspillage alimentaire, la grosse assiette à l'épicerie qui finit à la poubelle, ou est-ce que les légumes perdus dans le fond du tiroir dans le frigo. Mais c'est plus que ça. Le gaspillage alimentaire commence sur des fermes, dans certains cas, dans des pays trop pauvres pour avoir les bons mécanismes de réfrigération pour garder les récoltes. Tu sais, ça va de là jusqu'au restaurant. Là. C'est un long processus où, à toutes les étapes, il se perd des aliments qui pourraient être précieux. Donc, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est une politique énorme et globale.
Oui, absolument. Mais les grands coupables, c'est nous tous, hein? Il y a du gaspillage à travers la chaîne, mais c'est le consommateur est de loin le plus grand gaspilleur.
Ah oui.
C'est dans le rapport, là, c'est clair, là. Dans le fond, Ce qu'on tente de faire aux Nations Unies, c'est de créer un index. Donc, on a créé un index aujourd'hui sur le gaspillage, ce qui est, à mon avis, une très bonne idée, hein, parce que dans le fond, on peut parler de gaspillage à chaque année, mais on se pose jamais la question si on s'améliore ou pas, là. Donc, on vient de créer un point de référence avec l'index, et à chaque année, on va revenir, on s'est donné des objectifs aussi pour atteindre les cibles de 2030, parce qu'on parle beaucoup de l'accord de Paris, mais si on gaspille, ça veut donc dire qu'on pollue pour rien aussi. Donc, en gros, je trouve que c'est un exercice qui a du mérite. Par contre, ce qui est relevé dans le rapport, là, c'est les données, hein. Il y a un manque vraiment cruel de données. Mesurer le gaspillage, là, c'est pas donné pour tous les pays. Même ici au Canada, on s'en tient à des données qui arrivent du ministère de l'Environnement.
Bon, on les fait comment, mettons, pour savoir, au restaurant, c'est encore tel que tel, mais pour savoir dans les résidences, comment les gens évaluent le pourcentage de la nourriture qui est achetée, qu'ils mangeront jamais, là, qu'ils vont mettre soit à la poubelle après l'avoir cuisiné parce qu'ils ont fait trop grosses portions puis ils jettent, ou soit carrément, ils cuisineront jamais, là, ça pourrit dans les garde-manger ou dans les tiroirs, puis finalement, on se fait le ménage du frigo puis c'est plus bon. Comment on sait les quantités que ça représente?
Ben, c'est ça, exactement. Donc, c'est rapporté par des sondages, par des perceptions, mais on mesure pas grand-chose. C'est ça. Et c'est ce qui manque un peu. Donc, l'index a été créé, mais avec les années, j'ai l'impression que la capter, collecter les données va, les méthodes vont s'améliorer avec le temps. Et on lance un appel aujourd'hui pour inciter les pays qui ont été sondés de faire un meilleur travail au niveau des données parce qu'on, dans le fond, on en sait, il y a quand même une différence entre le gaspillage qui est évitable et le gaspillage qui est non évitable. On se comprend qu'on mangera pas des os puis des plures, là. Ben, il y a d'autres choses qui se gaspillent puis on sait pas trop exactement ce qui se passe. On y va avec des à peu près, là.
Mais on gaspille plus au restaurant qu'à la maison?
Ben, d'après un rapport, il semblerait que non. Ça me surprend un peu, là, mais c'est sûr que le volume d'achat est pas là non plus. Donc, la tarte canadienne avant la pandémie, c'était 65-35. T'as 65% de l'argent dépensé en alimentation, c'était à l'épicerie. Donc, le gaspillage se faisait beaucoup à la maison. Tandis qu'au restaurant, c'est 35%. La tarte est la pointe de tarte est moins grosse, là. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on génère moins. Mais en termes de volume, le ratio de gaspillage, à mon avis, est plus élevé en restauration.
Est-ce que ça fait une différence ou c'est du menu fretin sur l'ensemble des chiffres? Les efforts qui sont faits, par exemple, par les supermarchés avec les food heroes, les flash food, t'as tous des noms anglais, là, qu'on me pardonne, mais des applications par lesquelles on fait de la vente rapide, là. On a des légumes ou des yogourts, tout est proche d'être passé date, là. On les réduit, mettons, de 50%, puis on les vend. Il y a ça maintenant dans tous les supermarchés. On a ça à la sortie. Ça marche-tu? Est-ce que ça fait une différence vraiment sur la quantité de nourriture qu'on évite de gaspiller?
En fait, n'importe quoi peut aider, là. Si on est en mesure d'offrir une deuxième vie à l'alimentation, à un produit alimentaire, pourquoi pas? Même de plus en plus, ce que je trouve dans les magasins, c'est qu'on gêne moins à mettre une tablette, à mettre des tablettes où on retrouve des produits dont la date de péremption est tout près, là. C'est la journée même ou le lendemain, là. Donc, on voit vraiment qu'il y a une conscientisation partout, puis les consommateurs se gênent pas non plus, là. Donc, plus qu'on va voir ce genre de choses-là arriver, ben, c'est sûr que notre niveau gaspillage va diminuer, là.
Mais il y a des pays où il y a eu carrément le débat d'enlever les dates de péremption ou au moins de les... Qu'elle ne puisse être maintenue que strictement que sur des produits où, je sais pas, une salade, où il y a des fruits de mer, où il y a vraiment des produits là, qui passent une certaine date, qui pourraient avoir un risque pour la santé. Mais tu sais, des pâtes alimentaires, un paquet d'affaires comme ça, qu'on interdise même de mettre une date, parce que il y a des gens, là, puis j'en ai dans ma maison, là, que quand la date est passée, je veux dire, ils voient le produit. Non, mais tu sais, ils voient le produit, c'est du poison vif, là.
Ah non, c'est sûr. Ben nous, on est notre famille, on est jeunes, tout le monde est en santé, mais tu sais, pour ce qui est de la réglementation, il faut considérer que c'est pas tout le monde qui a un système immunitaire qui est fort, là. Alors, c'est pour ça qu'au niveau de l'agence publique, on fait extrêmement attention. Mais si vous êtes en forme, puis votre système immunitaire aussi est en forme, ben, vous pouvez prendre des risques, tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent pas vraiment le faire.
Mais il y a des affaires où il n'y a pas de risque vraiment, là. Il y a certains produits.
Il y a des magasins en Europe qui existent où, justement, l'ensemble des produits, la date de péremption est passée, là. Donc, même aux banques alimentaires, nous, on fait du bénévolat aux banques alimentaires. Il y a beaucoup, beaucoup de produits dont la date de péremption est passée, puis aucun problème.
Mais là, il peut vous dire qu'il n'y a aucun problème. Moi, je mange juste du passé date, puis je suis en santé au max, là. C'est un exemple vivant de ça, là. Pour vrai, les dates de péremption.
C'est la senteur, c'est le goût.
Ben oui, c'est la senteur, le goût. Quand c'est pourri, là, je veux dire, on le voit, là. Il y a de la mousse puis tout ça. Mais quand c'est bon, c'est bon. Quand tu l'ouvres, ça sent bon, pis c'est tout correct, là. Mais je veux dire, un yogourt, là, c'est bon. Facilement 2 mois après la date, là. Facilement 2 mois, là.
Je vais vous faire un aveu. J'ai ouvert tout récemment une bouteille de ketchup qui était fermée, qui était nouvelle, là. On l'avait oubliée. Ça faisait 5 ans qu'on l'avait. On l'a ouvert. Pas de problème.
Ah.
Ben. Aucun problème. Voilà.
On n'est pas gaspilleux.
Et le ketchup est encore rouge.
C'est bon, c'est le Vincent Lebois. Merci d'avoir été là.
Au revoir.
Au revoir. On va faire une pause. C'est Richard Martineau qui s'en vient.